Alors, Tristan Félix, nous allons vous recevoir pour deux livres.
C'est à moi.
Livre de bord de Maurice Mourier, dont vous avez fait les dessins. Et un autre livre, Les farces aux éditions Caractère, le livre de Maurice Mourier. Et le livre Les farces du squelette, dont vous avez fait 12 blasons, écrits et dessinés à la plume et à l'encre de Chine. C'est-à-dire, j'ai expliqué aux auditeurs comment il se présente. C'est un grand format rouge de papier canson.
Un carnet, dans la tradition du carnet de dessin.
Dans la tradition du carnet de dessin. Et à l'intérieur, sur la page 2, il y a un petit livre imprimé.
Dans une pochette, en forme de triangle.
Ouais. Dont vous prenez les blasons. Alors, je vais lire la préface. D'abord, on va commencer par ce livre-là, Les farces du squelette. Ce recueil contient 12 blasons du squelette destinés à irradier 12 points douloureux par une introspection fantasmagorique. Les dessins ont pris appui sur un autre corps que celui de l'auteur, dont le squelette est un peu trop apparent.
Trop peu apparent.
Trop peu apparent pour radiographier les zones sensibles. Chaque poème en prose d'un format unique se referme sur un rire de la guérisseuse pour déjouer toute erreur médicale. Dessins et textes s'interpénètrent littéralement et cellulairement dans un échange de tatouages osseux. Le dessin ici est une écriture et l'écriture un dessin, tous deux sur de l'os. Alors ça, c'est la préface qui est dédiée à Yvan. Alors, est-ce que vous... La première question, pourquoi ce terme de blason ?
Les blasons sont souvent des blasons du corps, mais là, c'est l'intérieur du corps, sa structure. Voilà.
Et c'est en référence au Moyen-Âge ou...
ça pourrait l'être, mais là, c'est tout simplement une partie du corps, un fragment du corps, et qui est en même temps, à lui tout seul, un microcosme. Voilà.
Alors, je vais expliquer aussi que dans la partie écrite, j'ai cité les différentes parties du corps dont vous parlez, et après, il y a un dessin qui illustre la partie du corps dont vous parlez.
Alors, des fois, c'est l'inverse. Il y a parfois eu le dessin en premier, avec les textes qui ont suivi, et parfois le texte en premier et le dessin qui a suivi. Avec cette idée que le dessin est une forme de calligraphie, enfin, pour moi, et la calligraphie, une forme de dessin. Voilà. L'écriture est un dessin.
Alors, il y a la main, il y a le cou. Il y a le genou, il y a la hanche, il y a le coude, il y a le thorax, il y a la mâchoire et il y a le nez. Alors comme ça, je ne vous avais même pas parlé, mais est-ce que vous pourriez lire un blason, puisque vous ne pouvez pas lire vos dessins ? Est-ce que vous pouvez en lire un tranquillement ?
J'aime bien votre subordonné puisque, parce que justement, comme on ne peut pas les voir, je vais vous lire un dessin. Mais je vais peut-être demander à Olivier et à vous Thierry de peut-être faire une toute petite chorale d'os derrière en bruit de fond derrière comme ça au micro.
Vous m'expliquez comment on fait le...
Alors ça, ce sont des radios de mon propre squelette. Alors on fait juste ça comme ça. Je sais pas ce que ça donne, Erwan, au micro. Voilà, je vais essayer.
Ça s'entend ?
Le cou. Est-il le cou, un manche de corps qui brandirait la tête coupée d'un ami inconnu ? Est-il le cou, le pivot d'une tête qui se serait vissée sur le mannequin encore tiède d'un champ de bataille ? Il oscille, branleur de chef et clou de buste, tourelle aveugle entre un dôme caverneux et une muraille dédaléenne, effrité au coude, effondré aux aisselles. Sanglé par des artères violissantes et nacrées, il s'érige contre son gré. Hissé là, coup de vertèbre cambré sur une colonne enfoncée loin sous terre, il résiste en sécrétant un mucus calcifiant dont il jouit de percevoir le crissement épars et sporadique, ainsi qu'un clignotement d'étoiles, une pétillance acide. Chaque grain d'arthrose le distrait de sa geôle, creusant inlassablement vers la lumière d'invisibles galeries, par où fuir un jour abandonnant à ses ruines une bâtisse coercitive qui ne résonnerait plus alors que de la chute de quelques os contre ses parois humides. Lorsque le corps est tout entier pris par l'assaut de la vie, en son degré le plus élevé, il grimpe et s'installe à son observatoire, calé comme un socle fossile. Une stèle antique. Il tient tête à l'intrus, assis sur son atlas, concentré sur un point de mire aveugle. Là, il fabrique ses perles de calcium les plus pures et sculpte, en les broyant, sa tête réjouie de nouveau-nés. Le cou lance alors en l'air sa boule de bilboquet qui retombe sans un hoquet.
Merci Tristan Félix pour cette lecture en musique, entre guillemets.
C'était un tonnerre d'os.
Un tonnerre d'os. Vous m'aviez dit une fois faire des dessins médiumniques. Pouvez-vous nous parler de ce que vous mettez dans cette appellation ? Vous n'imaginez pas, je crois, un dessin dans vos têtes et essayer de le reproduire. Comment procédez-vous ?
Alors, l'épithète médiumnique, elle est pas reçue par les intégristes du dessin médiumnique, parce que figurez-vous qu'il y a des intégristes du dessin médiumnique. L'art est conceptuel, on l'a vu tout à l'heure. Tout est lié à un pouvoir. Moi, j'appelais ça comme ça, tout simplement parce que le fil d'encre est un médium, au sens d'un support. Et à partir de là, vont émerger des figures qui ne sont en effet, comme vous le disiez, pas prévues, pas programmées, pas prépensées. Et le fil se déroule, naturellement, sans doute porté par un cerveau ancien ou inconscient. Et quand émergent des esquisses ou des semblants de figures, à ce moment-là, la conscience reprend le dessus, comme les aquarelles médiumniques d'Émile Nolde, par exemple. Hein. Et les choses se forment au fur et à mesure.
Voilà. Vous commencez par un endroit précis et vous...
N'importe où sur la feuille. Et parfois même j'arrête un bout et je reprends un autre bout de la page.
Vous avez idée de la totalité ?
Alors pour ces phares, c'est un petit peu différent parce que j'ai pris sur le squelette de quelqu'un d'autre donc, des esquisses de quelques secondes d'une partie du squelette. La hanche...
Ça peut expliquer quand même...
Par exemple, j'ai regardé la personne, alors je ne lui ai pas enlevé sa chair, ni comme Kokoschka, ni sa peau, mais le squelette était suffisamment apparent pour que je puisse esquisser en quelques traits la forme d'un os, d'une main, d'un pied, d'un sternum, d'un thorax. Et à partir de là, je me suis repliée dans mon univers et les choses sont parties en développement infini. Voilà. Alors parfois on reconnaît encore un peu la main ou le pied, le cou. Parfois les choses se perdent dans d'autres structures osseuses. Voilà.
Et vous avez fait une performance il n'y a pas longtemps ?
Ah oui.
Ce que j'appelle une performance, que j'ai,
oui.
j'ai raté.
J'appelle ça, je préfère dire prouesse, parce que performance est devenu tellement un truc excusez-moi, je vais être très vulgaire, de concept, de poète à la mort moelle-neuve, que je préfère appeler ça prouesse. Tout le monde y va de sa performance.
Non, c'est vrai.
Punaise, les vraies performances, c'est autre chose. Donc moi, j'appelle ça plus humblement, paradoxalement,
prouesse. Vous pouvez en parler un petit peu, comment c'est passé dans la petite galerie
C'est la galerie 17 qui se trouve 17 rue Constance et qui héberge, entre autres, les éditions Venus ou Vénus d'ailleurs. Et c'est une toute petite galerie. Et voilà, pour la dédicace, je crois que c'était le 4 mars, ouais, j'avais été donc invitée à venir. Et j'avais exposé donc un certain nombre de radios qui étaient éclairées par derrière. Et puis voilà, j'ai lu deux textes et on a fait comme ça une chorale osseuse, enfin un tonnerre d'os de façon chorale. Et j'ai aussi... sorti, et d'ailleurs c'est Maurice Mourier qui me l'a offert, on me fait des cadeaux extraordinaires d'os, de crâne, de squelette. Les gens savent ce que j'aime bien. Et Maurice Mourier, dont on parlera tout à l'heure, parce que c'est lui qui a
traité,
fait...
J'avais reçu le thème des animaux.
Voilà, voilà.
Disons, comment les définiriez-vous ?
Les animaux défunts. Et Maurice Mourier m'a offert un crâne de chien. Et à partir de là, la veille, j'ai conçu une marionnette, parce que vous savez aussi, je suis marionnettiste et j'anime le théâtre, le petit théâtre des pendus. Et donc, j'ai fait une petite marionnette à partir de ce squelette de chat et qui est devenu un médium, un nouveau médium à lui. Et à qui l'on posait, à qui j'ai demandé au spectateur de poser des questions et il pouvait répondre par oui, alors avec un geste uniquement, un geste d'acquiescement ou par non, les fils le conduisant de droite à gauche qui signifiait non. Donc on lui a posé des questions un peu étranges comme quand on questionne les esprits. Voilà. Mais ça m'a fait rire, hein. c'est pas du tout sérieux.
Vous parlez de marionnettisme, est-ce que vous pouvez parler, je voulais vous présenter, puis vous voyez l'émission, il y a toujours une part d'improvisation, Je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais est-ce que vous pouvez parler un peu, parce que vous avez de nombreuses activités, vous pouvez en parler un petit peu? Parce que c'est vrai, vous avez quand même pas mal de choses, vous êtes assez actif quoi, dans la création.
Oui, bah alors, j'ai un métier, il se trouve que j'enseigne dans le 18e, et parallèlement, je dessine donc, je prends des photographies aussi, un peu dans le même esprit, des photographies de fantômes qui peuvent apparaître sur des murs, sur des ciels, sur de l'eau, des surfaces de mare, ou des animaux, enfin bon. Par ailleurs, bon, j'écris évidemment de la prose ou de la poésie. J'édite aussi une revue qui s'appelle La Passe depuis 10 ans maintenant avec mon coéquipier Philippe Blondeau.
Est-ce qu'on peut la commander, cette revue, chez son libraire?
Alors, cette revue, non, elle est en dépôt dans des librairies à Paris essentiellement et aussi à Amiens. Mais on peut tout à fait la commander auprès des animateurs de la revue.
Est-ce que vous pouvez citer les coordonnées? Parce que c'est une merveilleuse revue. Moi, j'ai la chance de temps en temps, vous me l'envoyez. Oui. Et c'est une merveilleuse revue. Est-ce que vous pouvez donner les coordonnées s'il y a des auditeurs qui voudraient se la procurer, de mémoire ou pas?
Alors, déjà, si vous écrivez à Tristan Félix, c'est mon nom, @wanadou.fr, ce sera le plus court. Eh bien, à ce moment-là, moi, je vous réponds et j'envoie un exemplaire. Le numéro 19, d'ailleurs, va sortir à la fin du mois. Il y aura une après-midi à la Halle Saint-Pierre, le 30 mars.
À quelle heure?
Entre 16 et 18 heures. Et la veille, le 29 mars, je vais je donnerai à voir les choses en cours dans le cadre de mon association L'Usine Amuse, où il y aura justement du dessin, de la photographie, du clown, je suis également clown, et de la marionnette avec le théâtre des pendus. Et j'inviterai Claude Mastre, qui est un conteur. Et les éditions Venues d'ailleurs devaient venir, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils seront en Belgique, il me semble. Et ils seraient venus aussi.
Vous pouvez parler de cet éditeur qui a fait une micro-édition là, pour votre livre?
Alors, les éditions Venues ou Vénus, d'ailleurs, donc, sont tenues par Aurélie et Johan Armangil, qui sont un couple très particulier parce qu'ils sont extrêmement doués, extrêmement cultivés, extrêmement minutieux. Ils font de la très, très fine ouvrage. Armand et Johan est un excellent dessinateur, musicien également, compositeur, et il est envisager que nous travaillions ensemble dans le cadre de mon théâtre des pendus et du clown aussi. Il ferait quelques musiques. Et Aurélie, elle travaille dans la micro-animation avec des collages. Donc ce sont des gens qui travaillent sur beaucoup de terrain. Ils ont aussi fait des prouesses dans des lieux publics un petit peu étranges. Et ce sont des inventeurs de rêves, si on peut inventer un rêve. Le rêve existe déjà, mais en dehors des rêves existants, ils en fabriquent avec leurs petits doigts, mais ils en pensent aussi de très étranges. C'est un univers à découvrir. Les éditions Venues d'ailleurs, ils ont un blog. On tape Venues d'ailleurs sur Internet et on tombe sur leur blog.
Et vous pouvez l'appeler pour VENUS.
Et plus loin d'ailleurs, DAI2LURS.
D'accord, parce que c'est une micro-édition ça.
Oui, c'est une micro-édition. Mais ils méritent, bon, c'est pas leur but d'être connus, ce sont des travailleurs du rêve. Mais faut vraiment connaître ce qu'ils font, parce qu'ils font des choses bien plus belles que ce que font certains éditeurs d'art, qui le font avec beaucoup de prétention. Et eux, c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de force. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous relire un texte pour qu'on mette avant un morceau de musique et qu'on passe au deuxième livre, que je crois que c'est le plus parlant?
Je vais vous lire le dernier qui s'intitule « Le nez ». Alors, je voulais juste dire que tous les textes sont de longueur égale. C'est très important d'avoir des contraintes, parce que quand on part en dessin médiumnique comme ça, il faut savoir s'arrêter. Donc, soit il y a le cadre de la page, soit il y a un nombre de lignes. Là, il y a 12 lignes et demie. Et ça se termine toujours par une phrase farcesque, voilà, qui contient parfois un jeu de mots, mais qui permet de désacraliser cette idée prétendument mortuaire de l'os.
Est-ce que, par exemple, vous avez pris des renseignements médicaux avant de commencer ce livre-là ?
Non, pas du tout, non.
Non, non.
J'ai exploré les images qui naissaient de la vision de telle partie de l'os. Ah, ta-ta-ta-ta. Le téléphone qui sonne.
Attends, c'est marqué, n'oubliez pas de fermer le portable.
Oui, oui. Et voilà. Donc, je vais vous lire le nez. Et dans le dessin du nez, c'est la seule partie qui n'est pas dessinée. Il se voit, le nez, comme le nez au milieu de la figure. Avant-poste peu enviable si l'on estime que tout centre est autant partout et nulle part que sa circonférence. Aussi, le nez, à l'issue d'exercices respiratoires qu'enseigne le zen, est-il seul capable de disparaître du visage, tout en demeurant très exposé en chaque point du visage, lequel, semblablement, flotte en quête d'identité autour de cette mire fuyante. Le nez renacle et se nie. Nul ne peut le nier. Surtout pas la Camarde, qui n'affuble qu'un chicot piètre au fond des catafalques. Il exista un âge d'or, au cours duquel se conduit, agréait de libres ébats entre la réalité brute et les fantasmagories de la cervelle. L'on pouvait le perdre pour insulte à l'ayatollah, devenir fou sur un ring de boxe, halluciner en inspirant des poudres, humer les génitaux. Le nez, hélas, a disparu par dissémination. Tout écart provoque le risque d'en heurter un. Mine de rien, ils creusent ces galeries dans les carrières de schiste, boutent hors de leur tumulus, termites et maniants, rongent les gratte-ciels plus vite que les scolytes, sapent les piles des ponts et des tunnels, perforent organes greffés et momifiés jusqu'à ce qu'un immense réseau de courants d'air vicie toute l'atmosphère. Il s'immisce en lui-même, il s'épate et rougit, prête au grand éternuement. Le clown est un naze qui n'ose que son nez.
Merci Tristan Félix. C'était un extrait des Farces du squelette, 12 blasons écrits et dessinés à la plume et à l'encre de Chine, que vous pouvez vous procurer en tapant « Venu d'ailleurs » sur un moteur de recherche, de Tristan Félix, dessin et donc écrit. Nous allons mettre un morceau de musique. Musique, Erwan. Thank you. Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demotunevoix@voila.fr ou par téléphone au 01 43 71 89 40 ou par courrier au 145 rue Amelot à la librairie Publico, émission Des mots, une voix, dans le 12e arrondissement à Paris. Qu'est-ce que c'était comme musique, ça, Tristan Félix ?
C'était un extrait, enfin le début du 7e morceau qui s'intitule « La vallée des brumes ». Et c'est un morceau extrait de « Bruit d'or » par Arsène Trifon, lequel n'est autre que Johan Armand Gilles, l'éditeur des éditions Venues d'ailleurs. Voilà.